Pourquoi la croix? L'histoire et la signification de la mort de Jésus. Histoire et origine de la crucifixion. Pendant des siècles, les symboles ont été utilisés comme moyen d'identification, souvent de manière immédiate, compacte et puissante. Parfois, les extrémistes politiques ou religieux le font pour revendiquer le pouvoir ou la suprématie, pour susciter la peur ou l'insécurité, ou même pour exprimer la haine ou la colère. Beaucoup sont facilement reconnaissables, l'un des plus puissants et des plus émouvants étant la croix gammée nazie. Les opposants lors des fameux troubles en Irlande du Nord, qui ont duré 30 ans à partir des années 1960 et ont coûté la vie à plus de 3000 personnes, ont souvent utilisé des symboles accrocheurs et dramatiques. Certaines d'entre elles montraient des hommes armés et cagoulés et recouvraient les murs extérieurs des bâtiments de Belfast et d'ailleurs. Au fil des siècles, les autorités ont utilisé de nombreux moyens différents pour exécuter les criminels et leurs ennemis. Il s'agit notamment de la lapidation, de la guillotine, du peloton d'exécution, de la pendaison, de l'électrocution, du gazage et de l'injection mortelle. Dans presque tous ces cas, la mort de la victime est instantanée, tandis que dans les autres, l'agonie ne dure que quelques minutes. Dès le IVe siècle à venir, à partir de maintenant, au moins quatre puissances, dont l'Empire romain, ont eu recours à une forme d'exécution indescriptiblement douloureuse et prolongée, la crucifixion. Le mot vient du latin pour réparer une croix, et cette pratique cruelle et sauvage a été utilisée pendant environ 1000 ans. En 337 après J.C., elle fut abolie dans l'Empire romain par l'empereur Constantin Ier. Pourtant, depuis près de 2000 ans, une croix est le symbole universellement reconnu du christianisme, dont le fondateur, Jésus-Christ, a été crucifié à la périphérie de Jérusalem. L'auteur britannique Malcolm Muggeridge l'a qualifié de mort la plus célèbre de l'histoire, mais ce qui n'est pas immédiatement évident, c'est pourquoi une croix devrait être le symbole de prédilection de l'Église chrétienne. Il peut être difficile d'en trouver un qui représenterait l'exemple moral de Jésus ou les miracles qui lui sont attribués, mais à première vue, il semble grotesque de mettre ainsi en valeur sa mort. Le symbole de la croix a désormais été aseptisé à tel point qu'il semble avoir perdu ses associations macabres. C'est sur des millions de livres, de bâtiments et de corps, il décore les vêtements d'innombrables personnes au cours de leur vie et souvent gravé sur leur pierre tombale à leur mort. Existe-t-il d'autres instruments de mort universellement populaires de cette manière? Le choix semble étrange. Pour d'innombrables personnes, il s'agit d'un bracelet ou d'un symbole porte-bonheur, sans signification sérieuse, mais choisi pour son design simple et épuré. Ceux-ci ne s'intéressent que peu ou pas du tout à l'événement qui a déclenché la tendance, même si pour beaucoup d'autres, il peut y avoir un écho intérieur leur disant que le croisement original était important d'une manière ou d'une autre, le transporter pourrait bien être utile. Pour d'autres, cela peut remplacer un pendentif de Saint-Christophe, que les gens portent dans l'espoir d'éviter des accidents. Pourtant, il existe des millions de personnes pour qui le symbole de la croix va bien au-delà et revêt une signification profondément personnelle et infiniment précieuse. Pour comprendre de quoi il s'agit, nous devons examiner de près l'événement original. Et c'est exactement ce que nous ferons dans les prochains épisodes de cette série. Le dernier jour de Jésus. L'exécution de Jésus était une peine de mort judiciaire appliquée par les Romains, qui occupaient Israël à l'époque. Jésus a mené une vie discrète entre l'adolescence et la vingtaine, mais il a soudainement attiré l'attention des gens lorsqu'il a commencé son enseignement public vers l'âge de 30 ans. De nombreux événements ultérieurs ont été enregistrés par certains de ses disciples, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont chacun écrit un livre du Nouveau Testament, collectivement appelé les Évangiles. Évangile signifie bonne nouvelle. L'impact du ministère de Jésus fut tel que sa renommée se répandit dans toute la Syrie et de grandes foules le suivirent depuis la Galilée et la Décapole, et depuis Jérusalem et la Judée, et au-delà du Jourdain, Matthieu 4, 24 à 25. Pourtant, tout le monde n'a pas apprécié ce qu'il disait. Son enseignement a rendu furieux l'establishment religieux, en particulier les pharisiens et les sadducéens. Ils avaient tout intérêt à préserver le statu quo, et l'enseignement de Jésus recoupait leurs traditions soigneusement élaborées. Plus Jésus devenait populaire, plus il s'opposait à lui. Une ligne d'attaque consistait à lui poser des questions qui, selon eux, pourraient l'embarrasser ou le dérouter, mais il y répondait facilement, et les gens étaient étonnés de la façon dont il renversait la situation sur ses ennemis, voir Matthieu 22, 23 à 33. Finalement, ses détracteurs décidèrent qu'il n'y avait qu'un seul moyen de l'arrêter, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, conspirèrent ensemble pour arrêter Jésus furtivement et le tuer, Matthieu 26, 3 à 4. La discrétion était nécessaire car ils avaient peur que les foules qui avaient vu ces miracles ne se retournent contre eux. Alors que la situation devenait de plus en plus tendue, les conspirateurs reçurent l'aide d'une source inattendue. Judas Iscariote était le seul non-galiléen parmi les premiers disciples de Jésus, mais il fit une si bonne impression sur les autres qu'ils le laissèrent gérer les fonds de leur entreprise. C'était une mauvaise décision, car au fond Judas était un voleur, et, ayant la garde du sac d'argent, il se servait de ce qu'on y mettait, Jean 12, 6. Pire était de suivre. Peut-être déçu que Jésus n'envisage pas de renverser les Romains, Judas décida de le livrer aux autorités religieuses. Ils lui offrirent 30 pièces d'argent, Matthieu 26, 15, pour ce faire, et il leur serra la main pour conclure l'affaire. Peu de temps après, Judas a identifié Jésus à une foule armée en le saluant avec un baiser. Jésus fut arrêté, lié et emmené chez Anne, qui avait été le premier grand prêtre de la province romaine de Judée. Déposé pour avoir outrepassé son autorité, mais ayant toujours une puissante influence dans le pays, il interrogea Jésus au sujet de ses disciples et de son enseignement, Jean 18, 19. Quand Jésus dit qu'il avait toujours parlé ouvertement et que si Anne voulait savoir quel était son enseignement, il pouvait le demander à quiconque l'entendait, l'un des officiers le gifla et lui dit, « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jean 18, 2.22. Anne ne parvenait clairement à rien, alors il envoya Jésus chez son gendre Caïphe, qui avait été nommé grand prêtre à sa place. Les autorités religieuses n'ont pu produire aucune preuve pour étayer l'accusation portée contre Jésus, mais deux faux témoins ont déclaré qu'il avait affirmé qu'il détruirait le magnifique temple de Jérusalem et le reconstruirait en trois jours, voir Matthieu 26 2.60 à 61. Interrogé par Caïphe si cela était vrai, Jésus resta silencieux. Quand Caïphe, furieux, lui demanda, « Je te l'ordonne sous serment par le Dieu vivant, dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu », la réponse de Jésus fut électrisante, « Oui, c'est comme tu dis, Matthieu 26. 2.63.64, Niv. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Caïphe. Il a déclaré Jésus coupable de blasphème, et lorsqu'il a demandé aux autres chefs religieux ce qu'il fallait faire de lui, ils ont répondu, « Il mérite la mort », Matthieu 26 2.66. Tôt le lendemain matin, les principaux sacrificateurs et les anciens confirmèrent la sentence, mais comme ils n'avaient pas le pouvoir de l'exécuter, ils emmenèrent Jésus chez Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée. Entre-temps, Judas fut soudainement pris de remords, Matthieu 27 2.3, Niv, et essaya de rendre les 30 pièces d'argent, disant aux principaux sacrificateurs et aux anciens, « J'ai péché en livrant du sang innocent », Matthieu 27. 4. Lorsqu'ils refusèrent de reprendre l'argent, Judas jeta les pièces de monnaie dans le temple et alla se pendre, Matthieu 27, 5. Devant Pilate, Jésus refusa de répondre aux accusations portées contre lui. Frustré de ne trouver aucune faute en Jésus, Pilate a soudainement vu un moyen de se décharger de l'affaire. Lorsqu'il découvrit que Jésus était originaire de Galilée, il l'envoya rencontrer Hérode Antipa, le dirigeant juif de Galilée, qui se trouvait alors à Jérusalem. Hérode était heureux de s'occuper de l'affaire car il avait beaucoup entendu parler de Jésus et espérait même le voir accomplir un miracle. Il devait être doublement déçu, non seulement Jésus a refusé d'obéir, mais il n'a même jamais ouvert la bouche, même lorsqu'Hérode l'interrogeait longuement, Luc 23, 9. Furieux et frustré, Hérode et ses soldats le traitèrent avec mépris et se moquèrent de lui, Luc 23, 11, et il fut renvoyé auprès de Pilate. Soulignant que ni lui ni Hérode n'ont déclaré Jésus coupable des accusations portées contre lui, Pilate avait l'intention de flageller Jésus et de le laisser partir, mais il a ensuite pensé à une meilleure option. Lors de la fête annuelle de Pâques, une fête juive importante célébrée à l'époque, c'était la coutume du gouverneur de libérer un prisonnier choisi par le peuple. Pilate a demandé à la foule de choisir entre Jésus et un prisonnier appelé Barabbas, un anarchiste et voleur notoire. Comme aucune des accusations portées contre Jésus ne pouvait être retenue, le bon choix semblait évident mais, poussé par les chefs religieux, la foule a choisi Barabbas. Lorsque Pilate demandait ce qu'il fallait faire de Jésus, il criait, qu'il soit crucifié. Déconcerté et confus, Pilate leur demanda, pourquoi, quel mal a-t-il fait? Ignorant la question, la foule a crié encore plus fort, qu'il soit crucifié. Matthieu 27 2.22 à 23. Sentant qu'il pourrait bientôt y avoir une émeute, Pilate dit à la foule, « Je suis innocent du sang de cet homme, veillez-y vous-même », Matthieu 27 2.24, puis il s'est lavé les mains dans un bol d'eau pour montrer qu'il n'était pas responsable de ce qui pourrait arriver. Il relâcha ensuite Barabbas et remit Jésus aux soldats pour qu'il soit crucifié, mais avec pour instruction qu'il soit d'abord flagellé. La flagellation était une forme de torture vicieuse dans laquelle un fouet composé de brins de cuir chargés de morceaux d'os ou de métal était utilisé pour écorcher la victime, la tuant parfois au passage. Matthieu raconte ce qui s'est passé ensuite, et ils le déshabillèrent et lui mirent une robe écarlate, et tordant ensemble une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui, disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachèrent sur lui, prirent le roseau et le frappèrent à la tête. Et après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent sa robe, lui mirent ses propres vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Matthieu 27, 28 à 31. Lors de la crucifixion, la victime a été déshabillée et forcée de s'allonger face contre terre, les épaules appuyées sur une poutre de bois. Ses bras tendus étaient épinglés à la poutre avec des clous, peut-être enfoncés juste au-dessus du poignet. La poutre a ensuite été soulevée et fixée à un grand poteau vertical déjà enfoncé dans le sol. Certains documents anciens font état d'un ou plusieurs autres clous, fixant les pieds de la victime au montant, et d'autres d'une petite selle qui supporterait partiellement le poids du corps. Celle-ci n'était pas destinée à aider la victime, mais à la maintenir en vie plus longtemps et ainsi à prolonger la douleur. Certaines victimes ont souffert d'horribles souffrances pendant plusieurs jours avant de mourir suite à une perte de sang, une suffocation, un épuisement, une asphyxie, une insuffisance cardiaque, un choc, une septicémie ou une déshydratation. À moins que les amis du défunt ne réclament le cadavre, celui-ci était laissé à la merci des oiseaux charognards, des animaux errants et de la vermine. La crucifixion de Jésus, les dernières heures Jésus a été soumis à des moqueries humiliantes alors qu'il était pendu sur la croix, ce qu'il a accepté sans protestation ni représailles. Les évangiles rapportent qu'il a parlé cette fois pendant la crucifixion, et nous pouvons en noter quelques-unes ici. La première était de demander pardon à Dieu pour les responsables de sa torture et de son exécution, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », Luc 23 2.34, Niv. Il a également confié sa mère, Marie, aux soins de son fidèle ami l'apôtre Jean, qui se tenait à ses côtés, voir Jean 19 2.26 à 27. Alors que la fin approchait, Jésus s'écria, « J'ai soif », Jean 19 2.28, Niv. Un soldat trempa une éponge dans un pot de vin aigre, la posa sur une branche d'hysope et la porta à sa bouche, voir Jean 19 2.29, un geste qui n'aurait pratiquement rien fait pour apaiser sa déshydratation furieuse. Peu de temps après, Jésus dit, « Père, entre tes mains je remets mon esprit », puis rendit son dernier soupir, Luc 23 2.46. Autrefois, il était courant dans certaines cultures de hisser le cadavre d'un criminel exécuté sur un poteau ou un arbre en guise de dernière marque de honte. Cependant, la loi cérémonielle de l'Ancien Testament stipulait que le corps ne devait pas y rester toute la nuit, mais qu'il devait être enterré le même jour, sinon la terre serait souillée, voire Deutéronome 21, 22 à 23. Dans le cas de Jésus et des deux criminels crucifiés à ses côtés, la souillure serait pire, car le lendemain était un sabbat spécial, Jean 19 2.31, Niv, tombant pendant la semaine de Pâques. Les autorités religieuses avaient été cruellement malhonnêtes en traquant Jésus jusqu'à la mort, mais elles insistaient maintenant sur le maintien de la pureté rituelle en observant cette interdiction et demandaient à Pilate la permission de retirer les corps pour les enterrer. La manière habituelle de s'assurer que les victimes étaient mortes avant de les abattre était de leur casser les jambes, alors que le choc aurait mis fin à leur jour. Pilate accepta et les soldats brisèrent les jambes des deux criminels. Se tournant vers Jésus, ils virent qu'il était déjà mort, Jean 19, 33, mais, pour s'en assurer, l'un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau, Jean 19, 33, 2.34. Immédiatement après la mort, le sang dans les cavités cardiaques coagule assez rapidement, puis se sépare en plasma et en globules rouges. Une lance enfoncée dans le côté d'une personne, près du cœur, aurait libéré ces deux fluides, qu'un profane comme John pourrait très bien décrire comme du sang et de l'eau. D'un autre côté, en plus d'élargir les cavités cardiaques avec du sang, le traumatisme choquant que Jésus a subi pendant la flagellation et la crucifixion aurait pu provoquer une telle accumulation de liquide dans le péricarde, un sac de tissu fibreux entourant le cœur, qu'en une lance le perçant peu après la mort et avant que le sang ne se fige aurait produit un flux de sang et d'eau. Quelle que soit l'explication exacte, une chose est sûre, ce qui restait accroché à cette croix du milieu était un cadavre imbibé de sang. Pascal Cusson. Mars 2024.